d'une doctrine fondamentale. Le texte de Romains chapitre 3, nous allons surtout regarder les versets 21 à 26, mais comme un mot-clé de mon vocabulaire, c'est « contexte ». Alors, nous avons regardé ce texte-là dans un contexte un petit peu plus élargi. Et d'ailleurs, si on avait le temps, on pourrait lire à partir du chapitre 1, verset 1, pour nous mettre vraiment dans le contexte. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera la première fois que vous allez entendre une prédication sur ce texte. Peut-être que pour d'autres, ce sera au contraire du déjà vu. Mais ma prière, c'est que nous puissions saisir un peu plus la mécanique de la croix. C'est ce qui se passe dans ce texte. Et j'ai intitulé l'enseignement de ce matin, « La dette remboursée, payée à notre place ». Cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone d'une compagnie, des courtiers en endettement pour aider les gens qui ont des dettes. Et eux, ce qu'ils nous offrent souvent, c'est de consolider nos dettes et de rembourser des dettes à des taux d'intérêt beaucoup plus bas. D'ailleurs, souvent, ils sont capables de négocier des taux de 0% avec des cartes de crédit, etc., parce que plutôt que de faire faillite ou plutôt que de perdre ses mauvaises créances, les compagnies acceptent de suspendre les intérêts et donc recevoir le remboursement de leur capital. Et cela se fait par l'intermédiaire de courtiers comme ceux-là. Alors, je reçois ce coup de téléphone et on m'offre leur service. Alors, j'ai pu leur répondre. Je dis, j'aimerais vous répondre avec joie que je n'ai pas de dette. Que je n'ai pas de dette, ça n'a pas toujours été vrai dans ma vie, mais là, c'est un moment où c'est le cas, et de dire, bien, je vous remercie pour vos services, continuez votre bon travail, et la dame m'a remercié, elle a raccroché. La plupart des Québécois, pour ne pas dire de l'ensemble des Canadiens, ont des dettes. Vous entendez probablement à l'occasion des analyses financières et le fait que les Québécois sont en tête de palmarès pour les plus endettés au Canada. C'est drôle parce que je n'ai pas toujours les mêmes chiffres ni les mêmes résultats qui nous sont présentés. Néanmoins, la plupart sont assez endettés, que ce soit les voitures, que ce soit les cartes de crédit, que ce soit d'autres dépenses. Bon, il y a des dettes qui sont des dettes qu'on pourrait dire raisonnables, comme des hypothèques, tant qu'on est capable de les payer. Mais il y a d'autres dettes, par contre, qu'on ne devrait pas encourir parce que sinon, ça nous revient à payer beaucoup plus cher. Et quand on est dans ces situations-là, eh bien, plusieurs redoublent d'efforts ou certains redoublent d'efforts et avec beaucoup de discipline parviennent à rembourser leurs dettes, vont déchirer leur hypothèque à la fin. Il y a toutes sortes de cérémonies qui vont se faire. Il y a une dette, par contre, qui est très difficile à rembourser. Que dis-je? Impossible à rembourser. C'est notre dette spirituelle. À l'époque de la Réforme, les gens étaient obnubilés par la pensée de la mort. Comment faire face à un Dieu envers qui ils se savaient endettés? Cette réalité de notre endettement envers Dieu est la même. Mais notre conscience personnelle de notre endettement spirituel, lui, a disparu. Elle, cette conscience, a disparu, malheureusement, de sorte qu'aujourd'hui, très peu se préoccupent de leur dette spirituelle. C'est pourtant une réalité. Et en fait, l'Épître aux Romains est un texte qui nous déclare et qui nous démontre, texte de l'Ancien Testament, témoignage de la conscience, témoignage de la création à l'appui, que nous avons tous une dette spirituelle. Samedi dernier, dans la foulée de ce qui s'est passé avec Gilbert Rozon, Éric Salvaille, notre société a retrouvé un sens moral, on dirait. Et c'est Denise Bombardier qui écrivait dans la Presse Plus samedi dernier « Le retour de la morale ». Et elle dit « Celle-là, je ne l'attendais pas. » Par les réseaux, sociaux. Ou après une vague de dénonciations suite à ce qui s'était passé à Hollywood, d'autres se sont mises, pour la plupart des femmes, à parler, d'autres se sont mis, masculins, à parler de ce qui s'est passé ici à Montréal avec un animateur bien connu. Mais on sent qu'il y a une fibre morale quand même dans notre société. Elle n'est pas complète, elle est néanmoins présente. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous de justement ramener la morale au centre des préoccupations et non pas d'être moraliste, mais d'apporter la solution, de présenter la solution que Dieu lui-même nous a apportée en Jésus-Christ. Et ce sentiment d'échec, de culpabilité, il était bien réel à la Réforme, de sorte que la doctrine de la justification par la foi s'est répandue comme un feu de prairie et a conduit des gens à la liberté en Jésus-Christ. Ainsi, nous avions contracté une dette qui nous était impossible de payer. Et certains d'entre nous, nous sommes peut-être dans ces situations, au plan financier, et peut-être que même au plan spirituel, vous ressentez, vous êtes dans cet état. Si quelqu'un vous arrivait un jour en disant, « Pas besoin de faire ton prochain paiement », en fait, plus besoin de faire de paiement, ta dette a été remboursée, payée à ta place. Quelle ne serait pas notre joie? Hein? On a une délivrance quand on est libéré de nos dettes physiques. Imaginez-vous la délivrance que nous avons quand nous sommes libérés de notre dette spirituelle. Alors, Romains chapitre 3, versets 21 à 26 est un texte qui nous explique, un des seuls textes du Nouveau Testament qui nous explique un peu la mécanique de la croix. Il y en a d'autres dans Éphésiens et Colossiens aussi, mais celui-ci est particulier. Il y en a un autre aussi dans les premières épîtres de Jean. En fait, les doctrines importantes du Nouveau Testament ne s'appuient pas sur un seul texte, mais sur l'ensemble de la parole de Dieu et sur plusieurs textes. Alors, si quelqu'un vous arrive avec une doctrine qui s'appuie essentiellement sur un texte, soyez sur vos gardes. Parce que les doctrines fondamentales sont appuyées sur un ensemble de textes, chacun pris dans son contexte, non pas des textes tirés et emberlificotés d'une manière étrange. Non, chaque texte dans son contexte affirme bel et bien les mêmes vérités. Et les vérités que l'on trouve ici se retrouvent aussi ailleurs dans d'autres textes, mais ici d'une façon un peu plus spéciale. Alors, un peu de contexte pour nous aider à jouir un peu de notre texte. Dans Romains chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20. On a une première section dans l'Épître aux Romains, après l'introduction, où Paul finalement démontre que tous, juifs et non-juifs, nous sommes sous la condamnation de Dieu. Que nous le reconnaissions ou pas, que nous acceptions ce verdict ou pas, c'est la réalité. Nos sentiments ont peu à faire avec la vérité, avec la réalité. Et si on dit, vous ne comprenez pas, monsieur l'agent, moi j'interprète ce panneau de limite de vitesse d'une certaine façon, lui l'interprète selon ce que ça devrait être interprété. Et s'il nous fait grâce de 5 ou 10 kilomètres et tout à coup il décide de l'enlever et que nous cherchons à négocier, il y a une culpabilité devant la loi. C'est la même chose devant Dieu, sauf que devant Dieu, la négociation n'est malheureusement pas possible. Malheureusement, heureusement, impossible. Dans Romains chapitre 1, verset 21, chapitre 2, verset 1, en fait, Paul utilise une expression à deux reprises à l'effet que nous sommes inexcusables. C'est le terme qui est employé. Inexcusables, nous ne pouvons pas plaider l'ignorance. Parce que, nous dit l'apôtre Paul, Dieu a manifesté ses perfections invisibles dans la création. La création rend témoignage au fait qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est infini. Et la loi, chapitre 2, verset 1, autre chose qui nous rend inexcusable, nous manifeste non seulement l'existence de Dieu, mais aussi les exigences de Dieu. Donc, le verdict que l'on trouve dans ces deux versets, c'est que nous sommes inexcusables devant Dieu. Même au chapitre 3, verset 19, le deuxième texte, Paul emploie une expression où il dit que toute bouche sera fermé devant Dieu. Je ne sais pas combien de gens j'ai entendu. Quand je serai rendu de l'autre côté, on s'assoira et on négociera. Malheureusement, cette chose est fausse. Toute bouche sera fermée devant Dieu. Nul ne pourra plaider l'ignorance, la supériorité, ses bonnes œuvres, sa moralité, rien de tout cela. Chapitre 3, toujours au verset 19, l'autre phrase que Paul emploie est à l'effet que tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Mis en présence de nos péchés, mis en présence des avertissements de notre conscience, mis en présence de la personne de Dieu au dernier jugement, personne ne pourra plaider l'ignorance, mais tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. Et verset 20, « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque, qu'est-ce que la loi produit? La connaissance du péché. » Vouloir être justifié par l'observation de la loi, c'est d'apprendre à nager avec une enclume autour du cou. Je répète, penser être capable d'apprendre à nager, plutôt que d'avoir une bouée, la loi nous présente une enclume. Elle nous pousse vers le fond. Elle nous tire vers le fond en raison de sa masse. Et face à cette condamnation, donc, deuxième point, face à cette condamnation générale, les gens présentent toutes sortes d'objections. Et Paul n'est pas sans les connaître, ni sans les reconnaître non plus, et il y fait référence et il y apporte des réponses dans ces textes. Alors, je tente de nous donner un peu de contexte dans ces deux, trois premiers chapitres de l'Épître. Une première, ça pourrait être, je ne savais pas moi, je n'étais pas au courant. Je vous donne simplement des références qui servent de réponse à ces objections. Romains chapitre 1, versets 19 à 21, nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous parce que Dieu nous l'a fait connaître par la création, nous a fait connaître ses perfections invisibles, il nous a fait connaître sa divinité. Paul dit que ça se voit comme à l'œil depuis la création, dans la création, depuis les temps de la création, justement. Et verset 21, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, d'une certaine manière, par la création, ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Plutôt que d'adorer le Créateur, ils se sont mis à adorer les créatures, les planètes, les astres. De ce temps-là, dans ma page d'accueil Sympathico, j'ai droit à l'amour selon votre astrologie, vos vêtements d'Halloween selon l'astrologie, votre coupe de cheveux selon votre signe astrologique. On adore la lune, le ciel, le soleil, les étoiles. Alors peut-être qu'on se dit, peut-être je le savais, mais il y en a des pires que moi. Celle-là aussi, on l'entend. Hein? Bien, Paul répond, chapitre 2, verset 1, « Tu es donc inexcusable, puisque qui que tu sois, toi qui juges, parce qu'en jugeant les autres, tu te juges toi-même ou tu te condamnes toi-même. Pour quelle raison? Parce que toi qui juges, toi qui condamnes, tu fais pareil. Tu fais les mêmes choses. Ah, peut-être pas. » Exactement la même chose, ou au même degré. Mais on se compare tous avec quelqu'un de pire, n'est-ce pas? Sans se rendre compte qu'on est peut-être le pire de quelqu'un d'autre qui se mesure à nous et qui dit « je suis moins pire que lui ». En fait, devant Dieu, nous ne nous comparons pas les uns aux autres, mais nous sommes en présence d'un standard, d'un calibre qui est inatteignable. La perfection, la sainteté même. Et je pense que tous reconnaissent que, ils ont peut-être menti, ils ont peut-être triché, ils ont peut-être eu des sentiments de colère, peut-être qu'ils n'ont pas tué, qu'ils n'ont pas commis l'adultère, mais ils ont peut-être dérobé ou ils ont peut-être envié ou On est tous coupables. Alors, de dire que les autres sont pires que nous, en fait, on commet les mêmes choses. Autre objection, mais Dieu est injuste. Dieu est injuste, soit parce que je ne le savais pas, soit parce qu'il est trop juste, donc il est injuste. Et au chapitre 2, verset 2, Paul dit « Le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. » Il y aura un standard selon lequel tous seront jugés. Ou encore au verset 5, par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » Paul ne se contente pas de parler du jugement de Dieu, mais du juste jugement de Dieu. Ce jugement sera juste. Mis en présence de toutes les circonstances, de toutes les connaissances, on ne pourra plus plaider de circonstances atténuantes, de fatigue, de mécompréhension. Non, le jugement de Dieu sera juste. Et ça, c'est une des caractéristiques de la bonne nouvelle, c'est que Dieu est juste. Si on était justifié par un Dieu injuste, on se sentirait très mal à l'aise devant un Dieu comme celui-là. Nous avons un sentiment de justice quand même. Malheureusement, notre sentiment de justice est teinté de notre rébellion envers Dieu. Mais même à ça, on dirait qu'il reste qu'il y a un reste, non pas au sein d'Israël, mais au sein de notre cœur, de justice quelconque. Et ce sentiment de morale ou de moralité auquel je faisais référence tout à l'heure vis-à-vis des abus sexuels ou des abus d'autorité dans la société, c'est le témoin, ces sentiments sont les témoins au moins d'une fibre morale. Et si le pire des injustes pouvait se sauver de la loi, on a connu des grands procès contre des motards criminalisés au Québec, alors... On sent l'injustice, ce qui est arrivé avec un médecin qui avait plaidé la non-responsabilité. Il y a eu une vague de protestations. Ça nous montre ça, qu'il y a un sentiment de justice chez l'être humain. Il n'est pas pur, il est loin d'être parfait, mais il est quand même présent. Mais imaginez-vous Dieu, un Dieu parfait. Lui connaît tout, sait tout et sera juste. De sorte que quand Dieu va prononcer son verdict, tout le monde pourra déclarer et déclarera c'est juste. C'est juste. Autre réponse possible, peut-être, mais tu sais qui je suis, moi? Sais-tu qui je suis? Quand on veut, des fois, échapper à la police qui nous met de côté, des médecins peuvent sortir leurs cartes, des avocats, des notaires. Vous savez qui je suis? Ou faire leur petit signe pour se reconnaître entre chevaliers de colon. Tu sais qui je suis? Romains chapitre 3, versets 9 et 10. Sommes-nous supérieurs? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et non-juifs, juifs et grecs, nous sommes sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. On dirait qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Pas dans ce cas-ci. Il n'y a pas d'exception. Alors, tu sais qui je suis? Oui, un pécheur. Bienvenue dans la famille, en passant, parce qu'on en fait partie. Ou encore, autre objection, je possède une Bible, moi. Quand on annonce l'Évangile aux gens ou quand on leur parle du Seigneur, quand on parle de la justification par la loi... par la foi, j'ai une Bible, moi, ou que ce soit une Bible ou un quelconque vestige religieux dans la maison, que ce soit sous forme de scapulaire, de médaille, de chapelet accroché après le miroir de la voiture. Je possède un élément religieux, bien dans Romains 2, 17, autre référence donc, Romains 2, 17, Paul dit, « Toi qui te donnes le nom de juif, on pourrait le remplacer par religieux. » Toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui instruit par la loi, qui sait discerner ce qui est important, Toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés et le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. J'ai une Bible. Ah, est-ce que tu la lis? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Ah, mais je suis religieux, moi. Ah oui? Ben, tant mieux. Est-ce que tu obéis aux lois de ta propre religion? Oups! Pas tout à fait, hein? Ah, mais je fais tort à personne. Ça, c'est autre argument. Je fais tort à personne. Et Paul dit dans Romains 2, 25, chapitre 2, verset 25, « Ah, la circoncision est utile. » Circoncision, c'était le signe hein, pour les Juifs de faire partie du peuple de l'Alliance. La circoncision est utile à une condition. Si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, le fait que tu sois circoncis est nullement utile. Ta circoncision devient incirconcision. C'est-à-dire, ça ne te donne aucun avantage. Mais, verset 26, Paul prend l'exemple inverse. Si l'incirconcis, celui qui n'a pas la loi, observe d'une quelconque façon les ordonnances de la loi, est-ce que sa circoncision, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Est-ce que ce n'est pas lui le vrai juif? En fait, celui qui pratique la loi, pas celui qui la possède, pour la réciter par cœur, mais celui qui la met en pratique. L'incirconcis de nature, verset 27, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas? Toi qui transgresses, toi qui la transgresses, toi qui as la lettre de la loi et de la circoncision. Et là, Paul apporte un argument extrêmement fort. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. On pourrait même mettre là, dans notre contexte à nous, le chrétien. Ce n'est pas celui qui possède une Bible, ce n'est pas celui qui vient à l'Église, ce n'est pas celui qui observe. Hein? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, de ce genre de juif, hein, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et on pourrait se dire, mais où Paul va-t-il chercher ça? Est-ce qu'il n'impose pas maintenant au judaïsme une lecture chrétienne de tout ça? Non, ces indices de la circoncision du cœur se trouvent déjà dans l'Ancien Testament. À deux reprises dans Deutéronome, chapitre 10, chapitre 30, l'Ancien Testament nous parle d'une autre circoncision que celle de la chair, mais celle du cœur. Dans Jérémie, on trouve dans Jérémie 4:4, mais aussi dans d'autres textes, où Dieu finalement enlève de notre cœur le cœur de pierre et place un cœur de chair. Notre problème, ce n'est pas la circoncision de la chair ou l'incirconcision de la chair, c'est celle du cœur. On a besoin de cette circoncision du cœur, c'est-à-dire cette nouvelle naissance, cette justification, cette adoption par le Père, cette régénération par le Saint-Esprit, cette réconciliation avec Dieu. Là, je viens de donner 4 synonymes. Il y en a une vingtaine dans le Nouveau Testament. Et la justification par la foi, c'en est une parmi tant d'autres. C'est celle à laquelle on s'attarde ce matin. Alors, à ces objections, face au sentiment de condamnation, Dieu est juste. Personne ne pourra déclarer « Dieu est injuste ». Personne ne pourra dire « Je ne le savais pas ». On a tous une conscience. On a tous un sentiment, une expression religieuse aussi déformée soit-elle. Et la réponse à ce sentiment d'injustice, ce sentiment même de culpabilité, pardon, ce n'est pas de vouloir négocier. Et l'Évangile, la réponse que nous apportons à cet état de fait, n'est pas de dire aux gens « aimez-vous les uns les autres ». Ça fait partie du grand message de l'Évangile. Mais si on voulait résumer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile lui-même. L'Évangile, ce n'est pas nécessairement de s'aimer les uns les autres. Ça, c'est une conséquence de l'Évangile. Faire du bien à mon prochain. Hein? Quel est le grand message de la Bible? Micro-trottoir sur la rue Saint-Denis. Et ce serait, aimez-vous les uns les autres, il a dit. Hein? Ou, qui suis-je pour juger, on a entendu, de Rome, à un moment donné. Mais, le message de l'Évangile, c'est que Dieu lui-même a payé notre dette spirituelle qui nous était impossible à rembourser. Alors, l'Évangile n'est une bonne nouvelle que dans la mesure où nous reconnaissons notre détresse et notre perdition spirituelle. Je l'ai mis bien centré pour qu'on puisse la retenir. On tourne la page. Ah non, pas vous, la version que vous avez. Vous avez un point 3 dans le bas de la page. Le vocabulaire théologique de Romains chapitre 3, 21-26 est dense et il est riche. Alors, on va rapidement regarder quelques termes clés. Lorsque Paul dit « sans la loi est manifestée la justice de Dieu », ça nous a été présenté hier, que la justice de Dieu ne consiste pas ici dans la qualité intrinsèque de Dieu, que Dieu soit juste. La justice de Dieu est une expression dans Romains qui est la façon dont Dieu nous amène à être en relation avec lui. L'Évangile, c'est la façon dont Dieu nous déclare juste devant Dieu. La justice de Dieu est incluse dans l'Évangile, c'est ce qu'on trouve dans Romains 1, 17, la justice de Dieu s'y révèle dans l'Évangile. Et ça, Martin Luther, justement, voyait dans cette expression-là, au départ, le fait que Dieu soit juste, la justice de Dieu. Mais ce n'est pas le sens de cette expression dans Romains 1, ni dans Romains 3. La justice de Dieu ne consiste pas dans le fait que Dieu soit juste, mais la façon dont Dieu nous amène à être en juste relation avec lui. C'est la doctrine de la justification. La justice de Dieu se révèle dans l'Évangile. Il me semble que ça s'était révélé au Sinaï, non? Oui, le fait que Dieu soit juste, oui. Mais le fait que Dieu nous déclare juste et être en juste relation avec lui, ça, c'était pas au Sinaï. Ça, c'était au mont Golgotha. Ce n'était pas dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance. En fait, l'Ancienne Alliance était préparatoire à celle qui venait. De sorte que cette justice de Dieu, cette façon dont Dieu nous déclare juste, la manière dont Dieu nous déclare, c'est ce que c'est que la justification, c'est la manière dont Dieu nous déclare juste ou être en juste relation avec lui. Paul nous dit que c'est par la foi. Et la foi ici, ce n'est pas celle qui est mentionnée dans les films d'Hollywood ou sur Netflix. La foi, ce n'est pas d'espérer quelque chose, de se jeter dans le vide. En anglais, le mot « faith » a souvent un mot qui lui est associé. « Leap of faith »,« blind faith », foi aveugle, saut dans le vide. La foi biblique, c'est tout le contraire. On ne saute pas en bas de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a déjà proposé ça à Jésus, il lui a répondu par un autre texte. Ce n'est pas sauter dans le vide, c'est d'être entouré des promesses de Dieu et de placer notre confiance. C'est vraiment ça la foi, c'est de placer notre confiance, nous en remettre à Dieu. Croire du cœur. Paul dit ensuite que cette justice de Dieu, elle est par la foi. Elle est attestée par la loi et les prophètes, j'y reviendrai. Mais il dit, verset 24, qu'ils sont gratuitement justifiés. Gratuit, ici, ça veut dire gratuit. Vous recevez peut-être des dépliants publicitaires gratuits à l'achat de 450 $. Gratuit si vous vous abonnez. Ce n'est pas gratuit, ça. Mais ici, c'est vraiment gratuit. Tu places ta foi en Jésus-Christ, gratuitement, Dieu nous déclare juste. Ah, il y a des composantes d'obéissance après, mais il n'y a pas de prix attaché à la foi, à cette justification, sinon que de croire. Et cette foi, elle nous donne gratuitement, sans avoir à rembourser quoi que ce soit. Et c'est en lui que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, j'y reviens dans une seconde, par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le fait d'être esclave et d'être libéré. Donc, c'est d'être libéré. La rédemption, c'est d'être libéré au moyen du versement d'une rançon ou d'un prix. La libération, même dans l'Ancien Testament, pouvait se faire simplement par délivrance militaire. Mais il y a une autre forme de rédemption dans l'Ancien Testament où Dieu donne une victime expiatoire et propitiatoire en remplacement de quelqu'un d'autre. Alors, la rédemption, c'est le fait de racheter. J'ai un frère qui aime les animaux, pas celui qui est pasteur, l'autre. Et il y avait un beau chien à un moment donné, mais son épouse était trop malade et il a dû se débarrasser de son chien. Alors, il est allé l'amener à la SPCA et il a payé, je ne sais pas, $50 pour que la SPCA prenne soin du chien avant qu'il ne le revende pour nourrir et prendre soin de l'animal. Ça n'a pas pris 2 jours que ma belle-sœur s'est mise à s'ennuyer de son chien, à en mourir. Alors, mon frère est retourné à la SPCA et a payé le plein montant. Il n'a pas pu dire « c'était mon chien ». Non, il était maintenant la propriété de la SPCA. Il a repayé un autre $150, je crois, pour racheter son chien. Je lui ai dit « Claude, tu es un rédempteur ». Et c'est ça. En fait, on appartient à Dieu dès le départ. Mais on s'est placé, par notre désobéissance, sous la condamnation de Dieu. Et ce que nous avons contre nous maintenant, c'est le jugement de Dieu. Et nous sommes esclaves de nos péchés, nous sommes sous le jugement de Dieu. En fait, en Jésus-Christ, Dieu ne nous libère pas du diable. Et la rançon n'est pas payée au diable, comme certains théologiens médiévaux l'ont cru. Mais c'est Dieu lui-même qui nous délivre de sa colère et qui paye lui-même le prix pour nous sauver de sa propre colère. C'est Dieu qui... Savez-vous que nous sommes sauvés de Dieu? C'est-à-dire de la colère de Dieu, juste jugement en raison de notre rébellion envers Dieu. Et Dieu nous rachète alors qu'on lui appartenait déjà. Mais on s'est placé sous l'esclavage du péché et Dieu maintenant nous rachète en versant un prix, une rançon qu'il se verse à lui-même dans la personne de son Fils. Les théologiens libéraux voient ça comme étant l'expression d'une famille dysfonctionnelle. Alors que c'est le cœur de l'Évangile. Dieu nous rachète de sa colère. Et en ce sens-là, Jésus est notre rédempteur. Et il est dit, verset 25, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang comme moyen d'expiation ou de propitiation. » Les deux traductions existent en français. Le terme qui est là est un terme qui normalement devrait être traduit par propitiation et non pas expiation. Les deux termes se ressemblent et les deux idées font référence à des choses analogues, mais pas complètement. Quand on dit que nos péchés sont expiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus placés sur nous, ils ont été payés ou remboursés ou expiés. La doctrine de l'expiation fait référence au fait que nos péchés ne sont plus sur nous, que Dieu ne tient plus compte de nos péchés parce qu'ils ont été expiés par la mort de Jésus-Christ. La propitiation, c'est autre chose. La propitiation ne fait pas référence à nos péchés, fait référence au fait que Dieu est en colère, une juste colère et un juste jugement en raison de nos péchés. Alors, l'expiation concerne nos péchés, la propitiation concerne la colère de Dieu. Et quand on dit que Jésus-Christ a subi une mort propitiatoire, c'est que non seulement il a enlevé nos péchés, ça c'est le volet expiatoire, mais il a enlevé de nous la colère de Dieu. Il nous a rendu Dieu propice, d'où le terme propitiation, en tout cas en français. Alors, cette propitiation, c'est le fait que Dieu nous soit devenu propice, que sa colère contre notre péché, ne soit plus sur nous. Et tout ça se fait par la grâce. Terme qui est répété, c'est-à-dire une faveur imméritée, un cadeau divin. C'est ça qui est la grâce. Sinon, la grâce n'est plus une grâce. On lit au chapitre 4, on lit ailleurs que si on fait des œuvres, eh bien, dans le but de mériter la grâce de Dieu, ce n'est plus une grâce. Je me souviens que j'avais un de mes grands-oncles, frère de mon grand-père, qui était frère des écoles chrétiennes, donc religieux, qui ont été ceux qui ont conduit toute l'éducation au Québec là, dans les années 40 et 50. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec lui, c'est un religieux catholique, et quand on parlait de relation entre la foi et la grâce, il m'avait dit « Dieu accorde sa grâce à qui la mérite ». C'était sa conception, c'était ce qui lui était enseigné par son catholicisme. Heureusement que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Parce que nul ne serait capable de recevoir la grâce de Dieu. Nul ne la mérite. Notre troisième fils se plaît à dire à certaines personnes, des fois, en raison des commentaires qui sont passés par les gens, « Ah, lui, il va aller en enfer. » Et en fait, il dit « Oui, effectivement. » En fait, on y va tous. Tous, on mérite l'enfer. Ça surprend un peu les gens. Alors, il est connu, entre autres, auprès de certaines personnes comme le prédicateur de l'enfer. Non pas qu'il envoie tout le monde en enfer, mais qu'il affirme qu'on y est tous destinés. Et en fait, on est là pour échapper au jugement de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, quatrième point, est-ce que cette justice de Dieu, cette façon dont Dieu nous amène à être en juste relation avec lui, est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans le plan de Dieu? Et si oui ou sinon, comment le sait-on? Eh bien, Paul va dire au verset 21, chose qui semble contradictoire. Maintenant, sans la loi, c'est-à-dire sans la loi de Moïse, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Alors, le régime de la foi sous lequel nous plaçons maintenant n'est pas le régime de la loi de Moïse. Alors, nous sommes dans un régime différent. Alors, dans un sens, il y a une nette discontinuité entre la foi en Jésus-Christ et la loi de Moïse. Mais en même temps, il y a aussi un élément de continuité, parce que Paul, dans le même souffle, ajoute cette justice, cette manifestation de la justice de Dieu, elle est attestée dans la loi et les prophètes. C'est une doctrine qui était déjà là dans l'Ancien Testament. Où ça? Eh bien, on en a un exemple au chapitre 4. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, reconnu comme justice. Oui, mais Abraham était circoncis. Paul pose la question un peu plus tard. Le texte qu'on a lu, c'est pour ça qu'on l'a lu. Paul pose la question, quand Abraham a été justifié, est-ce que c'était avant, quand il a été circoncis, est-ce que c'était avant? Non, quand il a été justifié, pardon, est-ce que c'était avant ou après sa circoncision? Et la réponse est avant. C'est donc dire que ce n'est pas sa circoncision qui lui a amené la justification. Ça appartient à un autre régime. Nous sommes dans deux régimes différents. Et ça, c'était déjà attesté dans l'Ancien Testament. En fait, nous pouvons dire, sans gloriole, mais avec fermeté, que nous comprenons mieux les Écritures que les Juifs eux-mêmes. Parce que ce que nous voyons comme la doctrine de toute la Bible, la justification par la foi en Jésus-Christ, se trouvait déjà en germe dans l'Ancien Testament, tel que manifesté par l'exemple d'Abraham. En fait, lorsque Paul va poser la question, je vais garder ça pour mon septième point. Mais les temps passés, où il y a eu les temps de la loi, ont été en fait des temps de patience, Paul nous dit. C'était au moment, au temps de sa patience, Dieu avait, verset 25, laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il y avait tout un système de loi dans l'Ancien Testament, de sacrificature, de prêtrise, qui jusqu'à un certain point réglait la question du péché, Mais en même temps, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'était un rappel annuel et constant du fait que les péchés, en fait, le problème fondamental n'était pas déraciné, parce qu'on devait continuer à offrir ces sacrifices. Non seulement toutes les années, mais à toutes les nouvelles lunes, tous les sabbats, et en fait tous les jours. Il y avait ce rappel continuel que le péché devait être expié et que Dieu devait être rendu propice. Alors, les temps passés ont été des temps de patience. Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est un temps de grâce où le péché est vraiment expié. Il n'est pas simplement couvert, mais la colère de Dieu est véritablement enlevée de nos épaules. En Jésus-Christ, nous avons reçu la justification grâce à la propitiation et à l'imputation. Des grands termes théologiques, mais tout ça se tient. Mais les gens posent la question, comment un Dieu juste peut-il justifier des injustes? Dans l'Ancien Testament, le terme « justification » était employé dans des contextes de cours légales, des cours de justice, où finalement les juges devaient déclarer juste ou injuste en raison des preuves qui étaient amenées devant eux. Et lorsqu'il déclarait quelqu'un juste, il ne déclarait pas un injuste juste. La personne était déjà juste. Et il ne faisait que rendre un verdict à l'effet que cette personne, le verdict qu'on lui rendait, était en conformité avec les événements qui étaient présentés devant le juge. Et de la même façon, un injuste était déclaré injuste, non pas parce qu'il y avait eu un pot de vin donné au juge, non pas parce que c'était un pauvre, non pas parce qu'il y avait toutes sortes d'autres circonstances atténuantes ou accablantes, mais cette personne était déclarée injuste, riche ou pauvre, sur la base des faits. La personne était injuste. Alors, quand le juge déclarait cette personne injuste, alors il ne la rendait pas injuste, elle l'était déjà. Et ce sens est traversé dans le Nouveau Testament lorsque Jésus dit, par exemple, dans Luc chapitre 7, verset 29, que les publicains et les prostituées ont justifié Dieu en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Justifier Dieu. Est-ce que Dieu se justifie? Est-ce que ça se justifie, un Dieu juste? Dieu était reconnu comme juste. Simplement parce que ces gens-là se sont reconnus comme injustes et par conséquent, confessant leurs péchés, ont été baptisés par Jean-Baptiste. Alors que, Jésus dit, les pharisiens, les sadducéens ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu en n'étant pas baptisés du baptême de Jean. C'est-à-dire qu'ils ont refusé le verdict de Dieu à leur égard, qui était un verdict d'injustice, mais malheureusement, ils sont restés avec ce verdict-là. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait pas que justifier, de déclarer juste le juste et injuste l'injuste. Mais par la mort de Jésus-Christ, à la croix, il justifie l'injuste. Comment peut-il faire une telle chose sans aller à l'encontre de sa propre justice? La croix de Jésus-Christ. Dieu n'a pas envoyé sa nécessité de punir le péché en dessous du tapis. Ouvert la porte, souffler ça dehors, jusqu'à un autre coup de vent, ramène toute la poussière en dedans. Non, Dieu en a fini, a réglé la question du péché, pas en disant, c'est pas grave, on oublie tout ça, puis on recommence. On pourrait penser que c'était le cas au déluge, le déluge n'avait même pas ça comme but, mais on a vite vu que ça n'a pas été long après le déluge, qu'il y a eu autre chose, d'autres péchés. Tour de Babette, même chose. Alors, et appel d'Abraham, et même grande miséricorde et grande délivrance à travers les époques, ça n'a pas réglé le problème fondamental. Il y a ce péché qui doit être déraciné du cœur de l'être humain, être remplacé par la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Dieu nous déclare juste en Jésus-Christ. La justification, ce n'est pas le fait d'être rendu juste, mais d'être déclaré juste. Petite nuance ici. Normalement, la justification devrait nous rendre justes. à long terme. Elle devrait produire en nous cette transformation intérieure. C'est d'ailleurs une des certitudes que l'on a de quelqu'un qui est justifié par la foi, c'est que sa vie se transforme. Elle est transformée par la grâce de Dieu. Mais Dieu justifie des injustes d'abord en reconnaissant premièrement notre état réel devant lui, qui est d'être, je le répète, inexcusable, mais aussi condamné. Ce sont les deux réalités auxquelles on doit faire face. Le geste que Dieu a posé, c'est qu'il a destiné Jésus-Christ comme victime propitiatoire par son sang, par sa mort sur la croix. Et le moyen qu'il a choisi pour nous justifier, c'est la foi en Jésus-Christ. Celui ou celle qui place sa confiance dans la mort de Christ, qui tient lieu de sacrifice expiatoire et propitiatoire envers lui, envers elle, est déclaré juste devant Dieu. Le prix qui a été payé, pas nos bonnes actions, pas nos circonstances atténuantes, ça a été la mort de Jésus à la croix. Alors, comment Dieu ne fait-il pas violence à sa propre justice, qui est le sixième point? Mais c'est justement en offrant son Fils Jésus à la croix, comme rançon pour nous, comme prix à payer pour notre injustice. Pour prendre le langage de la première épître de Pierre, Christ est mort, lui, juste pour des injustes. Il est mort non seulement en notre faveur, mais à notre place. Il a subi notre condamnation. Alors, comment est-ce que ceci s'intègre, septièmement, dans le plan global de Dieu? Est-ce que nous n'annulons pas la loi de Moïse, ce faisant? Est-ce que nous ne sommes pas en train de changer les règles du jeu parce que ça nous accommode? Parce que nous ne voulons plus offrir de sacrifices incessants, comme dans l'Ancien Testament? En fait, non, Paul va donner, à la fin de Romains 3, il pose une question. Est-ce que nous annulons la loi? Il dit au contraire, nous la confirmons. Comment cela? Il nous donne deux exemples. Un avant la loi et un après la loi. Avant la loi, c'est Abraham. Après la loi, c'est David. Et qu'ont-ils en commun? Ils ont reçu le pardon de leurs péchés. La justice de Dieu leur a été imputée. Ah, les détails de la façon dont ça se ferait étaient encore à venir dans l'Ancienne Alliance. Mais ils étaient justifiés par la foi. De la même façon que nous, sauf que nous, de ce côté-ci de la croix, nous avons évidemment beaucoup plus de détails, beaucoup plus de connaissances sur cette façon dont Dieu nous déclare juste devant lui. Alors, loin d'annuler la loi de Moïse, nous la confirmons. Nous croyons, comme baptistes, en la confirmation, celle de la loi. Nous confirmons la loi. Nous certifions la loi en ce que notre foi est simplement l'aboutissement de ce qui a déjà été préparé par l'alliance avec Abraham et qui s'accomplit maintenant dans la personne de Jésus-Christ. Nous avons une seule Bible, frères et sœurs. Deux testaments, mais une seule Bible. Et c'est le même grand plan de Dieu qui parcourt la totalité des Écritures. Alors, en guise de conclusion, tu es juif? Eh bien, bienvenue à la justification par la foi dans le Messie des Juifs. La même justification que celle d'Abraham. Il a cru en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Tu es non-juif? Bienvenue à la justification par la foi qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est là notre point commun. Entre juifs et non-juifs. En fait, nous avons deux points communs. Nous sommes condamnés, l'un et l'autre, et nous pouvons être justifiés, l'un et l'autre, de la même façon, grâce au même sacrifice, par la foi en Jésus-Christ. Tu es non-chrétien? Peut-être tu dis, je ne comprends pas les histoires de juifs et de non-juifs. Tu n'es peut-être pas chrétien? Bienvenue à la justification par la foi en Jésus-Christ. Le Sauveur et le Seigneur de tous ceux et celles qui viennent à Dieu le Père par Jésus-Christ. Grâce à la mort de Jésus sur la croix qui tient lieu de sacrifice expiatoire qui enlève tes péchés et propitiatoire qui te rend Dieu propice dans la grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mort pour tes offenses, ressuscité pour notre justification. Alors, notre dette a été payée. Nous pouvons nous présenter devant Dieu et la mort de Jésus-Christ est imputée, la justice de Jésus-Christ est imputée à notre compte, de sorte que Dieu nous voit comme étant juste en lui, alors que Christ a été fait, pas pécheur, mais péché pour nous. Et ce faisant, Dieu démontre non seulement qu'il pardonne, mais qu'il demeure juste à ses propres exigences. Et tout cela était conforme au plan de Dieu. Frères et sœurs, nous avons une grande nouvelle à annoncer. Peut-être que les gens dans votre entourage ne sont pas obnubilés par le sentiment de culpabilité envers Dieu. Bien possible. Dans ce cas-là, la justification par la foi, qui a été véritablement cri de ralliement à la réforme, n'est peut-être pas l'expression la plus judicieuse pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Personnellement, je préfère utiliser une autre image, celle de la